Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado-diffusion à l'écoute des investisseurs pour le 31 juillet 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, le dernier jour du mois de juillet. On commence déjà où? Ça va vite le temps. Quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Donc, du côté des marchés boursiers, ce qui retient mon attention, c'est vraiment la performance du marché canadien par rapport au marché américain. On a vraiment une hausse depuis le début du mois au Canada de 4,3%. Ça se compare sur le Nasdaq avec une baisse de 3,3. Mm-hmm. Donc, ça fait 2-3 semaines là, qu'on mentionne une espèce de rotation hors des secteurs technologiques vers des secteurs peut-être plus traditionnels, plus valeur, plus des secteurs qui vont bénéficier d'éventuelles baisses de taux. Et ça se traduit par vraiment une surperformance du marché canadien. Donc, au Canada, plus 4,3, S&P 500, moins 1,5, le Nasdaq, moins 3,3. On est quand même en territoire positif sur tous les marchés. Qu'est-ce qui justifie là, ces mouvements-là? Entre autres, bon, les baisses de taux. Au Canada, on a eu la Banque du Canada là, qui a baissé les taux, mais les chiffres continuent de démontrer que l'économie canadienne ralentit tranquillement. Donc, on est passé les 10 ans de 3,39% à 3,23 cette semaine, donc une baisse assez significative. Qu'est-ce que ça a comme impact? Bien, la portion obligataire des portefeuilles, on le voit, la valeur des obligations individuelles est à la hausse depuis quelques semaines. Même les fonds d'obligation aussi, là, pour ceux qui en détiennent, on détient entre autres en général un fonds d'obligation à rendement élevé là, pour beaucoup de clients. Là, donc, ce fonds-là performe très bien aussi. Même chose du côté américain. Aujourd'hui, la Réserve fédérale va annoncer sa politique monétaire. Donc, on surveille ça autour de 2 heures cet après-midi. Les attentes, en fait, c'est qu'il ne va rien se passer cet après-midi. Donc, on pense que les taux aux États-Unis vont demeurer stables. Par contre, on est très intéressé de savoir ce que Jerome Powell va dire à propos de la direction future des taux d'intérêt. Le marché anticipe 100% de probabilité d'une baisse d'un quart de point à la réunion de septembre. Donc, au niveau des taux, là, ça va être vraiment important de voir là, est-ce que vraiment il va confirmer cette baisse à venir-là ou va la reporter un peu. Je voulais un peu pointer, là, hier soir, Microsoft a annoncé les bénéfices. Puis je trouve que c'est vraiment, ça illustre parfaitement qu'est-ce qui se passe un peu sur le Nasdaq, dans le sens où Microsoft a rapporté des profits en hausse de 10% sur des revenus en hausse de 15%. Donc vraiment là, un excellent trimestre, la division Azure, donc la division info nuagique, une hausse de 29% des revenus de ce côté-là. Pourtant, l'action est en baisse d'environ 3% ce matin. Pourquoi? Bien, parce que les attentes du marché étaient encore plus élevées et le prix de l'action de Microsoft reflète des attentes très élevées. Donc, une baisse de 3%, là, on ne panique pas. Là, au contraire, ce qu'on constate, c'est que la compagnie continue d'aller très, très bien. Mais il y a toujours un danger quand on a des attentes très, très élevées que la compagnie ne livre pas ces attentes-là. On le voit aussi même du côté de NVIDIA, donc la plus grosse entreprise de micropuces pour l'intelligence artificielle. Ben, depuis le 20 juin, le titre est en baisse de 20% quand même. Là, donc, on sait que l'intelligence est important, mais quand les titres sont pricés pour la perfection, là, quand le prix des actions reflète des attentes très, très élevées, le danger, c'est que ces attentes-là ne soient pas atteintes.
Puis tu as parlé de l'intelligence, c'est important. Tu voulais dire l'intelligence artificielle.
Oui, bien sûr.
L'intelligence est très utile aussi.
Aussi, c'est important d'avoir de l'intelligence. On parlait effectivement d'intelligence artificielle. AMD, donc la compagnie American Micro Device aux États-Unis, là, qui a annoncé des résultats financiers aussi hier. Donc, AMD, qui est un peu le nouveau compétiteur de NVIDIA, donc qui est une autre entreprise là, qui fabrique des puces électroniques, eux ont eu des très, très bons résultats financiers. Donc, est-ce qu'ils sont en train de voler un peu de part de marché à NVIDIA? Donc, on voit qu'il y a quand même une demande très, très élevée pour ça. Donc, on va garder à l'œil qu'est-ce qui se passe là-dessus, puis on va en reparler un petit peu plus tard là, dans le sujet principal de ce genre de situation-là.
Merci beaucoup, Martin. Donc, c'est super important de se connaître comme investisseur. Je pense qu'on en a déjà parlé sur notre balado. Cela nous aide à déterminer notre tolérance au risque. Ça informe aussi, donc, le style de portefeuille que nous allons détenir. Est-ce qu'on est inconfortable face aux fluctuations de marché? Quelle a été notre expérience lors des dernières baisses de marché? Est-ce qu'on a manqué le sommeil? Est-ce qu'on a bien dormi? Avec le temps, notre notre tolérance au risque peut changer aussi et peut évoluer. On a vu ça personnellement. Donc aujourd'hui, toi et moi, on a décidé de ne pas parler de notre vision de tolérance au risque comme conseiller, mais vraiment comme investisseur. Qui sommes-nous, toi et moi, comme investisseurs? Mm-hmm. Comment on a évolué avec le temps? Comment notre perspective a évolué avec le temps? Donc, pour ma part, j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent, pas beaucoup, à investir dans la vingtaine. Avant ça, j'avais vraiment pas d'argent. Mes parents m'ont jamais donné d'argent à investir. Je l'ai gagné. Et quand j'ai commencé à investir, j'étais très conservatrice parce que j'avais peur de perdre qu'est-ce que j'avais gagné. Et j'avais zéro connaissance et expérience avec les investissements. Donc, je manquais beaucoup de confiance.
Ouais.
Et donc, je n'étais pas non plus entourée de professionnels. Donc, ce n'est pas comme si mes parents avaient quelqu'un dans leur vie qui m'ont présenté. Donc, j'étais très conservatrice, peur de prendre du risque. Toi, Martin, tu étais comment?
Écoute, on s'est rencontrés tous les deux. On avait 23 ans en formation dans une banque bleue. puis on avait, comme tu as dit, zéro argent, pas tellement. Moi, j'ai eu un parcours un petit peu différent. Donc, moi non plus, là, j'avais pas vraiment d'argent. On avait tous les deux une valeur nette de zéro là, quand on s'est connus. Les premiers quelques milliers de dollars que j'ai eus, ben là, on retourne, on est dans la bulle technologique de 98-99. L'argent facile autour de nous. On avait quelques collègues au centre d'appel de la Banque Bleue là, qui nous disaient ah, ben, tu sais, moi, j'ai acheté ci. Puis, honnêtement, là, des cochonneries, là, des actions, des entreprises qui n'existent plus aujourd'hui, aucun modèle d'affaires, mais c'était la bulle techno. Tout ce qu'on achetait montait. Puis, ben, moi, c'était on a ouvert un compte avec le courtage en ligne là-bas, puis j'ai mis 2-3 000 piastres. Puis, paf, ça l'a doublé là, en quelques jours. Donc, ça, c'est donc bien facile d'investir en bourse. Donc ça, c'était mon entrée en la matière. Ça a été rapidement pas super bien, par exemple. Mais ce qui nous a un peu sauvés, c'est qu'on a acheté notre première maison en juin 2000. Donc, on a dû décaisser le peu de profit qu'on avait réussi à gagner là, à ce moment-là. On a dû le décaisser comme mise de fonds. Heureusement, parce que probablement j'aurais facilement reperdu là, cet argent-là assez rapidement. Fait que c'est pas mon intelligence qui m'a fait vendre, c'est le fait qu'on a acheté une maison, puis tant mieux.
Bien, puis je pense qu'on était vraiment à l'opposé, hein, comme investisseurs. Ouais. Donc, moi, j'étais conservateur, mais avec le temps, j'ai développé une tolérance au risque, puis j'ai développé de la confiance. Et je pense qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'âge et l'expérience, donc de voir que la fin du monde n'est pas à l'autre coin de rue, qu'on peut passer par des périodes difficiles financièrement, puis en sortir sans aucun problème. Donc, et aussi de voir les marchés baisser et de voir les marchés remonter par la suite. Donc ça m'a aidé beaucoup à développer ma tolérance au risque. Aussi, quand j'ai commencé à travailler avec toi, j'ai eu l'opportunité et la visibilité sur les rendements que les clients avaient eus à travers le temps. Donc, de le voir concrètement, qu'il y avait eu des années difficiles en 2008-2009, mais que le portefeuille, avec un bon portefeuille bien investi, que ça repartait à la hausse, ça m'a beaucoup aidé à développer ma confiance et mon habileté à assumer le risque. De ton côté, tu as aussi appris, mais toi, d'une autre façon, à te retenir tes ardeurs. Ouais. Peux-tu nous en parler?
Bien, j'ai toujours aimé, eu l'attrait de l'argent facile. Là, mm-hmm. Donc, moi, je voyais à la bourse, c'était comme de l'argent facile. Jusqu'à temps qu'on ait la leçon que c'est quoi, ça n'existe pas de l'argent facile. Puis, la seule façon d'avoir du succès, c'est d'avoir de la patience. Puis moi, j'étais un investisseur impatient. Tu sais, de faire un rendement là, de 15 % par année, là, c'était pas bon. Fallait faire 15 % par mois. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, 15 % par année, là, c'est incroyable comme rendement. Mais pour avoir ça, il faut avoir la patience, des fois, de détenir un titre, tu sais, qui monte juste de 12 cents par jour. Puis moi, on dit que ça bouge pas. C'est comme regarder de la peinture séchée. C'est donc bien ennuyant. Puis la leçon que j'ai tirée de ça, ben investir, là, c'est pas supposé d'être le fun, c'est pas supposé d'être excitant. Donc, mes ardeurs, c'était là. Puis, à un moment donné, on a pris la décision, là, donc, moi, je suis devenu conseiller en placement, puis rapidement, là, au début de la carrière, que c'était de dire, tu sais quoi, dans mon propre portefeuille, là, je vais juste acheter des fonds communs, mettre ça là, puis je vais arrêter de jouer dans mon propre compte, puis je vais m'occuper de l'argent des clients. Puis ça, c'était la meilleure décision, c'était vraiment là, de devenir très, ben je dis pas nécessairement conservateur, parce que quand même un profil de croissance, mais d'arrêter d'essayer de battre le marché, puis juste d'investir dans des bons produits, puis de les garder à long terme, puis de focusser là, à gérer les comptes des clients. Ça a été ma meilleure décision. Arrêter de jouer avec la barre de savon, parce que plus on joue avec la barre de savon, plus elle rapetisse. Puis le portefeuille, c'est comme une barre de savon.
Donc, avec un peu de pression de ta conjointe, tu as pris cette décision-là. aujourd'hui, je suis vraiment un investisseur qui investit comme on conseille les clients. Ouais. Je pense que tous les deux, on est comme ça. Je détiens de bonnes compagnies, de bons produits de placement, donc des fonds mutuels en grande partie, puis des bonnes compagnies solides. Je suis bien diversifiée et je suis vraiment une investisseur croissance.
Ouais.
Je suis confortable à avoir à peu près 80 % en actions et 20 % en obligations. J'aime bien les obligations dans certaines périodes de temps. Je regarde jamais mon portefeuille. Donc, je regarde, je passe mes journées dans les portefeuilles des clients à réviser les dossiers des clients et c'est là où je veux être. Donc, je veux avoir un portefeuille qui ne requiert pas la nécessité de transiger. Et j'assume en bout de ligne, et c'est ça qui a fonctionné, que je vais faire de l'argent, je vais faire des bons rendements. Je veux vraiment aussi, pas juste parler de gestion de portefeuille, mais de gestion de patrimoine avec les clients. Et on applique nos leçons qu'on donne aux clients, on les applique nous-mêmes. Tu m'as dit hier, je pense, on devrait regarder notre testament. Donc,
ouais.
on le dit.
Nos enfants sont plus vieux maintenant, là, c'est le temps de faire des petits changements.
Donc, on investit de façon similaire, toi et moi. Peux-tu ajouter un peu de couleur à mes propos?
Oui, donc concrètement, là, on est vraiment investi dans les mêmes produits qu'on recommande à nos clients. Évidemment, bon, on le répète toujours, là, on travaille avec des portefeuilles modèles qui deviennent l'inspiration pour les recommandations qu'on fait aux clients. Mais en bout de ligne, chaque client a un portefeuille légèrement différent l'un de l'autre, mais ça se ressemble pas mal. C'est la même chose pour nous. Concrètement, là, dans nos propres portefeuilles, Sarah et moi, ben, on détient 6 fonds mutuels. Ça représente 75 % de notre propre portefeuille. C'est dans 6 fonds communs. On a un fonds à rendement élevé, un fonds d'action mondiale, un fonds de revenus de dividendes, un fonds de croissance durable, un fonds d'innovation, et puis on a un fonds climatique. Donc ça, ce sont les 6 fonds communs qu'on détient qui représentent 75 % de notre argent. On peut acheter n'importe quoi. Hein? On a accès à tout le marché. On peut transiger comme on veut. Nous, on fait ce choix-là. Donc quand on recommande aux clients d'acheter des fonds communs de placement, ben on y croit réellement parce que c'est là-dedans que nous-mêmes, on investit. On détient 8 actions, donc individuellement, là, des entreprises individuelles, des banques, des télécoms, des titres qui payent des dividendes, des actions, on les achète, on les laisse là. Puis quand on a du nouvel argent à investir, on regarde dans le portefeuille, puis lequel des titres est moins élevé que les autres en termes de taille dans le portefeuille. Donc évidemment, c'est souvent le titre qui a le moins bien fait dernièrement, qui a peut-être baissé un peu, puis on rajoute à ce titre-là simplement pour garder l'équilibre. On a 3 obligations. Donc, nos actions individuelles représentent 15 % du portefeuille, puis on a 3 obligations qui représentent 10 % de notre portefeuille. Donc, c'est pas super sophistiqué, c'est pas super compliqué. On reste dans notre zone de confort au niveau des actions individuelles. Ce sont des titres canadiens et on délègue au fonds commun de placement la gestion des titres étrangers. Hey, j'espère que les clients reconnaissent que c'est pas mal ça qu'on leur dit de faire dans leur propre portefeuille parce que pour nous, c'est ça qui fonctionne. On fait vraiment là aucune anticipation de marché. On n'essaie pas de vendre en prévision de racheter plus bas. On a des bonnes business, je pense, qui vont traverser la prochaine récession puis la suivante, puis à la longue, qui vont augmenter. Puis on a travaillé, là, si moi j'ai une chose que j'ai améliorée dans mes 22 ans de carrière, c'est ma patience pour atteindre un rendement qui est élevé, puis pour laisser le rendement se composer le plus longtemps possible.
Puis, je pense qu'il y a deux points super importants que tu as dit. On ne fait aucune anticipation de marché. Quand on a de l'argent à investir, ouais, on ne regarde pas qu'est-ce qui arrive économiquement. On achète, ouais, qu'est-ce qu'on pense qui est une bonne compagnie solide, des positions qu'on, ouais, a déjà. Et on fait zéro spéculation.
C'est ça. Moi, aucun titre spéculatif. Puis, tu sais, j'ai mentionné, on achète. On a accès à tout, hein, tu sais, puis une des choses qu'on n'a pas nommées dans la composition de nos portefeuilles, on ne détient pas, nous, de FNB. Ben, c'est pas nécessairement des mauvais produits, mais tu sais, Sarah, pourquoi qu'on n'a pas d'FNB dans nos propres comptes?
Ben, je pense...
Fonds négociés en bourse,
oui, le FNB. Oui, exactement, fonds négociés en bourse, donc c'est principalement des outils de gestion passive, donc on détient un marché. La réalité, c'est que toi et moi, on croit vraiment au style de gestionnaire actif. Donc, j'aime avoir un être humain qu'on connaît comme investisseur, donc on connaît son style d'investisseur et qui travaille avec une équipe, une armée d'analystes qui sont dûment formés, qualifiés, qui ont beaucoup d'expérience parmi eux, qui cet individu-là et son équipe qui gèrent mes placements. Donc, je crois encore à l'être humain. Ouais. C'est ça la réalité. Personnellement, si je regarde ma carrière d'investisseur, je regarde à travers depuis la vingtaine à aujourd'hui, à 50 ans, ma plus grosse erreur, c'est ça a été d'avoir peur. Mm-hmm. Puis de façon générale, très jeune, j'étais très anxieuse et je craignais tout le temps que toi et moi, on allait être dans la rue. Et je me rappelle, il y a une dame qui m'avait dit, une collègue qui m'avait dit, « Sarah, si vous n'aviez pas d'argent, si vous perdez tout votre argent, Martin va aller creuser des trous pour toi. » Et je me suis toujours rappelée et ça m'a aidé beaucoup à travers des moments difficiles. Donc, cette peur-là que j'ai eue probablement, j'ai laissé de côté des rendements que j'aurais pu avoir. Toi, de ton côté, quelle est ta plus grosse erreur?
Ben moi, je me souviens là, très bien, là, on retourne à l'époque du dot-com, mm-hmm, on retourne à l'époque de Nortel Network. J'espère que je ne vais pas donner des cauchemars aux investisseurs en ramenant cette entreprise-là. Mais je me souviens à l'époque où j'avais des options sur Nortel, là, tout début. Là, donc, on retourne en 2000-2001, dans ce coin-là. Puis, j'avais placé, je voulais les vendre, j'avais un bon profit, je voulais les vendre, j'avais placé une ordre de vente. Puis le prix avait été arrêté là, comme 5 cents en bas de mon prix à moi. Puis pour 5 cents, comme j'ai pas fait la vente, je voulais faire 5 cents de plus. Ça représentait comme 150$. Là, ça. C'était niaiseux, la transaction. Puis je me souviens d'être assis dans l'auto. Puis là, aux nouvelles, ils annonçaient que Nortel avait fait une mise en garde sur ses bénéfices. Puis là, le lendemain matin, bien, l'action a tombé. Puis mon 8 000$ que j'avais dans cette position-là à ce moment-là est tombé à zéro pour 5 cents. Donc, c'est la meilleure leçon que j'ai eue où quand on décide de prendre un profit, de sortir d'une entreprise pour X raisons, c'est pas le dernier 5 cents qui va faire la différence. Au contraire, la décision, elle est prise. On fait pas d'anticipation de marché, alors bang, on sort, puis on fait notre changement. Et ça, pour moi, là, quand on dit on ne sait pas ce qui va arriver à la bourse, là, c'était le meilleur exemple. Tout allait bien jusqu'à 4h15 cette soirée-là. Puis le lendemain matin, cet argent-là avait disparu.
Puis je pense que notre mémoire des événements, notre mémoire de qu'est-ce qui est arrivé, nous aide à bien conseiller nos clients.
La valeur d'un conseiller, souvent, je l'ai dit en rencontre, hein, c'est d'avoir une plus longue mémoire que celle de nos clients. Donc, de nous rappeler des différents contextes, de la bulle techno, de la crise, la crise financière là, de 2008. Il y a eu la période des fiducies de revenus, hein, si on se souvient, là, c'est un petit peu avant, peut-être 2005-2006. Il y avait, tu sais, à toutes les fois qu'il y a un buzz, le cannabis en 2017-2018, tu sais, heureusement, nous, on a zéro participé à ça. Pourquoi? Parce qu'on se souvenait que c'était tellement pareil comme le dot-com de 99-2000. Les similitudes étaient flagrantes. mais on avait une plus longue mémoire que certains clients qui nous en parlaient. Hein, tu sais, il y avait le fear of missing out, la peur de manquer le bateau. Mais nous, on se souvenait que ça ressemble tellement à ça qu'on pense que ça va finir comme le dot-com. Pour l'instant, c'est pas mal ça qui est arrivé.
Fait qu'on retient qu'investir, c'est pas aussi excitant qu'on aurait espéré quand on était dans la vingtaine, pour exact, toi. Exact. Que c'est pas aussi épeurant que je l'aurais cru quand j'étais dans la vingtaine. Et que on achète des bonnes compagnies puis on est patient.
Exact. C'est tellement facile d'investir. C'est simple d'investir, mais c'est difficile. Ce qui est difficile, c'est de tolérer la volatilité, mais d'investir, de bâtir un portefeuille, ça, c'est pas difficile du tout.
Exact. Bien, merci beaucoup, Martin. Pour nos clients et partenaires, si vous avez des questions concernant ce balado ou vous voulez en discuter, Martin et moi sommes toujours disponibles, surtout aussi pour discuter de vos besoins, vos questions et vos objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.